بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم الدين وبعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب زدنا علما يا كريم، رب زدنا علما يا كريم، رب زدنا علما يا كريم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. شفاعة الإسلام نغمش الله عز وجل qui nous a donné la possibilité de compléter le mois de Ramadan bien sûr et après ce Ramadan alhamdulillah. La plupart d'entre nous, on a mis en pratique ce hadith dans lequel le prophète alayhi salatu wassalam incite le musulman à jeûner 6 jours de Shawwal pour avoir la récompense de toute l'année passée dans le saum, passée dans le rosa. Donc inshallah, la plupart d'entre nous ont eu le tawfiq de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala de compléter les 6 Shawwal durant ce mois. Et au cas où si ça n'a pas été le cas, il faut savoir qu'aujourd'hui on est le 25e Shawwal. Si je ne me trompe pas, aujourd'hui on est le 25e. Et donc même si une personne... Le 26e, alors aujourd'hui on est le 26e Shawwal. Donc si quelqu'un avait commencé et n'a pas pu rattraper, ben Inch'Allah il reste au moins jusqu'à vendredi, voire samedi, encore 3 ou 4 jours, pour obtenir la récompense de toute l'année passée dans le Saum, passée dans le jeûne. Et ça c'est extrêmement important. Alors Inch'Allah on va reprendre les programmes un mardi sur deux, en attendant Inch'Allah si on trouve une autre personne pour nous remplacer le deuxième mardi, Mufti Sab, hein, Mufti Lukman, qui n'est plus avec nous, enfin il est parmi nous, c'est-à-dire qu'il n'est plus à la Réunion, Taïb, et donc on va essayer de trouver quelqu'un qui pourrait faire un programme équivalent, ou un autre sujet, un mardi sur deux, Inch'Allah. Donc on était arrivé, à l'étape du Hisab, on parlait de la résurrection, du moment, de la période où Allah Azza wa Jal va appeler chaque personne pour rendre des comptes à propos de leur vie. Maintenant, s'il y avait parmi les musulmans des gens qui avaient un tel degré de iman et qui ont eu la grâce de la part d'Allah, qui a eu cette faveur de la part d'Allah de ne pas être appelé même pour rendre compte, ça c'est le meilleur cas de figure. Qu'une personne n'est même pas à rendre compte auprès du tribunal d'Allah, qu'Allah ait pardonné la totalité de ses péchés sur ce dunya, ça c'est le meilleur des cas de figure. Allahumma ja'alna minhum. Maintenant, si une personne fait partie de la deuxième catégorie de personnes musulmans qui a accompli de bonnes actions, certes, mais qui, en même temps, avait fait quelques péchés, et que malheureusement, il y a des péchés qui ont filtré les multiples occasions où Allah Azza wa Jal pardonne aux musulmans, et que par malheur, cette personne se retrouve auprès d'Allah Azza wa Jal devant ce tribunal, le jour de Qiyamah, alors qu'il y a encore un cumul de péchés qui reste dans son livret de compte. Et ça, c'est le pire des cas de figure. Ça c'est le pire des cas de figure. Car le prophète Ali Sallallahu Alaihi dit bien que « Man nuqisha al-hisab faqad udhib ». C'est lui à qui Allah Azza wa Jal commence à faire munaqasha, commence à poser des questions sur les actions que la personne a accomplies sur la terre. Pourquoi tu as fait tel péché? Pourquoi tu n'as pas fait telle bonne action? C'est déjà un genre de azab. Parce que devant Allah Azza wa Jal, qu'est-ce qu'on peut répondre? Devant nos parents, on peut dire, on peut faire croire n'importe quoi. Devant notre professeur, devant notre oustad, devant le recteur, devant le, je ne sais pas, le proviseur, on peut dire tout et n'importe quoi pour éviter une punition ou autre chose. Mais devant le tribunal d'Allah Azza wa Jal, qui est-ce qui est capable de dire à Allah, non, j'ai raison, non, la situation était telle que je ne pouvais pas faire ma salah, la situation était telle que je ne pouvais pas obéir à mes parents, telle chose. Personne ne peut avoir le dernier mot auprès d'Allah, et personne ne peut même penser à argumenter auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc une personne à qui Allah va faire des reproches, ce n'est pas dans le but que la personne se justifie, c'est que c'est des reproches de la part d'Allah azza wa jal, et venant de notre Seigneur, de notre Khaliq, c'est déjà... Un supplice, comme le Prophète dit, faqad udhib, c'est déjà un genre de adab, parce que certaines personnes, s'ils pouvaient mourir de honte, ils mourraient de honte devant Allah Azza wa Jal lorsqu'Allah Ta'ala les rappellera les bienfaits qu'il les a accordés, qu'il leur a accordés de ce monde, et Allah Azza wa Jal rappellera aux gens également que ne te souviens-tu pas qu'il y avait des malaïkas qui écrivaient les actions? Est-ce que vraiment tu ne prenais aucune considération de ces anges qui rapportaient les actes? Donc Allah Ta'ala fera multiples reproches aux pécheurs. Et si on peut éviter ce moment où on est présenté devant Allah pour rendre compte de nos mauvaises actions, ben Inch'Allah il faut faire le maximum. Et parmi les moyens qui nous permettent d'arriver devant le tribunal d'Allah sans qu'il y ait trop de péchés, et avec un maximum de bonnes actions, ben c'est l'action qu'on vient de citer tout à l'heure, le fait de jeûner 6 Shawwal, ça c'est extraordinaire ça. Et ça, cela n'a pas été donné aux autres communautés. Bien sûr, le Ramadan avait été prescrit aux autres communautés, comme le verset du Coran le dit bien, on a déjà vu ça beaucoup de fois dans le mois de Ramadan, mais dans aucun texte Il n'était précisé que les Yahoud et les Nassara, ils avaient eu les 6 Shawwal après le mois de Ramadan. Non, ça c'est vraiment quelque chose qui est spécifique à notre communauté. Donc nous nous devons de faire le maximum. Je me souviens, j'avais parlé avec une personne dans un petit quartier éloigné, hein, j'ai parlé des 6 Shawwal. Pourtant c'était quelqu'un, subhanallah, d'extrêmement religieux. Religieux. Et dit à la personne en plaisantant, bon là il faut qu'on mange Shawwal. Ah, miguez pas, fais ça moi. Une réponse tellement catégorique que j'étais choqué. J'avais dit à une personne, si je pouvais m'arracher les cheveux, je me serais arraché les cheveux. Dit, subhanallah, quelqu'un qui est dans le din, quelqu'un qui peut-être pratique plus que moi, fait plus d'efforts de din que moi, la personne dit, ah non, mais il n'y a pas, mi travail. Subhanallah, tout le monde travaille. S'il ne dit pas il travaille, il aurait dit qu'il est fatigué ou qu'il est vieux ou quoi autre chose. Subhanallah, la personne ne fait même pas le niyat, ne fait même pas l'intention de dire, oh Allah, aidez-moi, donne-moi ma tawfir de faire. Et la personne dit, ah, mi gué pas. N'a'ouzou billah. Ça, ce n'est pas la réaction d'un musulman, ça. C'est pas obligatoire, mais le musulman qui réfléchit, il ne peut pas laisser passer ce genre d'occasion. 6 rosa basse, ça nous garantit 360 années de rosa. Et devant le tribunal d'Allah, devant le mizan plutôt, devant la balance, imaginez, vous avez vécu 75 ans ou 80 ans, et durant toute votre vie, depuis que vous êtes allé jusqu'à votre mort, vous avez toujours fait les 6 shawwal. Allez, considérons qu'à partir de 60 ans, on ne peut plus faire, on est fatigué. D'accord ? Mais qu'on a fait les 6 shawwal depuis l'âge de 15 ans, jusqu'à l'âge de 60 ans. Et il faut savoir également, quand une personne garde de bonnes habitudes dans sa jeunesse, quand quelqu'un fait de bonnes actions, si la personne vient à vieillir et que la personne devient fatiguée ou la personne devient malade, le hadith dit bien que Allah Azza wa Jal demande aux anges d'écrire pour cette personne les mêmes bonnes actions qu'elle accomplit quand elle était en bonne santé. Il y a qu'à 60 ans, 65 ans, tcha-tcha est malade, tcha-tcha son pouce est blessé, peut-être n'a pas guetté sur ses chevaux, on est un peu fatigué, hein, on a un peu de rhumatisme, on a diabète, on a tension, là on est en train de tout ce qu'on a tout à fait, qu'on a fait la fiesta pendant 50 ans, 60 ans, ben là, ça, là c'est les analyses de sang qui le révèlent, d'accord ? Là-haut c'est la fiesta qu'on a fait de ce dunya, ça se révèle auprès du tribunal d'Allah. Et là de ce dunya, c'est quand on fait les analyses, là, à 50, 55 ans, on voit il y a cholestérol, il y a diabète, il y a hypertension, il y a tout ça, subhanallah, khair, d'accord ? Mais la personne qui a toujours fait ses a'mal. Par exemple, imaginez quelqu'un, il faisait tout le temps son tahajjud. Mais arrivé à un certain âge, elle ne peut plus faire. Taïb, ben Allah Ta'ala est tellement généreux qu'Allah accorde à cette personne jusqu'à sa mort les récompenses de toutes les nuits de tahajjud ou tous les 6 shawwal jusqu'à son décès parce que c'est uniquement la vieillesse, la fatigue ou la maladie qui l'a empêché de rester ferme avec avoir istiqama dans ses bonnes actions. C'est pour ça que c'est maintenant qu'il faut faire amal. Il ne faut pas attendre qu'on est fatigué pour dire qu'on ne peut plus. Si je l'ai fait jusqu'à les dernières possibilités, Inch'Allah, jusqu'à mon décès, j'aurai ces mêmes récompenses. Et donc, on s'était attardé sur un point, mais beaucoup attardé, on peut se demander pourquoi d'ailleurs. Mais la réponse est simple. Pourquoi est-ce qu'on a tellement insisté? On a déjà fait 2 programmes sur le respect des parents. Et pas uniquement dire le respect des parents, non. Le respect des parents et quelles seront les récompenses au jour de Qiyamah. La relation qu'il y a entre ce que je vais faire maintenant et l'au-delà. Il y a des cas de figure, il y a des fois où il y a des parents qui sont âgés, qui ont un caractère un peu difficile, ils sont un peu maniaques, ils deviennent un petit peu fatigués, d'accord ? Et donc l'enfant, ou l'adolescent ou le jeune papa, hein, il ne faut pas oublier qu'il reste toujours enfant, on a déjà dit, malgré quel que soit l'âge qu'on a, ben, il y a des fois où on se dit, oui, mais jusqu'à quand il s'est obéi vu le vieux ? Jusqu'à quand il s'est obéi vieux bougla ? Jusqu'à quand il s'attire son poubelle dehors ? Jusqu'à quand il s'est fait son commission ? Jusqu'à quand il s'attire son cou, etc., etc. Il m'a dit, mais il m'a rien, c'était. Mais il a des enfants comme lui. Là, wallah, tu ne seras jamais comme lui. Même si lui, il a 3 enfants, mais toi, tu as eu 5 ou 6 enfants, tu ne seras jamais comme lui. Parce que lui, il restera ton père jusqu'à son décès ou jusqu'à ton décès. Voyez ? Et donc, il y a des fois où on peut se dire, ben, à un moment donné, il y en a marre. À un moment donné, ben, on est fatigué, j'aimerais vivre ma vie de couple, ma vie de famille, j'aimerais prendre mon autonomie. Il n'y a pas d'autonomie dans l'islam. Dans les relations entre parents et enfants, il n'y a pas de majorité. Il n'y a pas « j'ai 18 ans, donc n'a plus le droit de rien ». Il n'y a pas d'autonomie non plus. Parce qu'on reste les enfants de nos parents jusqu'à leur décès ou notre décès. Et plus ils vieillissent, plus il y a des récompenses dans le fait de les assister. Plus les parents deviennent âgés, plus on est récompensé si on leur porte assistance. Parce que plus ils sont âgés, plus ils ont des besoins. Plus ils ont besoin de nous. Et quand on dit que les parents ont besoin de nous, ils n'ont pas besoin d'assistance sociale. Ce n'est pas d'une infirmière que papa, maman, ils ont besoin. Ce n'est pas d'une assistante à domicile, là, wallah. C'est de ces enfants qu'ils ont élevés eux-mêmes. Ce n'est pas comme certains, la réaction de certains, hein, que les parents sont âgés, les gens de notre communauté, hein, ils mettent leurs parents dans des maisons de retraite. Il y a débat dans notre communauté, il y a débat. Il y a certaines personnes, avec de très bonnes intentions, un qui pense qu'il serait grand temps de faire une maison de retraite pour la communauté musulmane. C'est un débat. Moi, je suis contre. Moi, je suis entièrement contre. Maintenant, les avis sont partagés. Hein, j'ai peut-être tort, il y a d'autres qui ont peut-être raison. Mais si on ouvre cette porte, qu'est-ce qui risque de se passer? N'importe quel musulman, il a 40 ans, 45 ans, dit bon, en général, cet âge-là, on a déjà fait donation. Il faut payer moins d'impôts, on paye tellement d'impôts, subhanallah, on a déjà fait les donations. Donc, chaque enfant a déjà son bien. En général, les parents, ils donnent usufruit. Parce qu'il y a le masla aussi, usufruit gardé, pas gardé, c'est un autre souci encore. D'accord? Les parents, ils ont plus du fruit, ils ont déjà donné les biens à l'enfant. Mais il y a des enfants qui disent que maintenant, j'ai besoin de démarrer dans ma vie, j'ai besoin d'investir, j'ai besoin d'avoir une belle voiture, j'ai besoin d'avoir un confort de vie mieux que ce que j'ai en ce moment, donc j'ai besoin des biens de mes parents. Et là, mes parents, ils deviennent comme un fardeau également. Deuxième souci, c'est quoi? C'est que maintenant, papa a 65, 70 ans, ben, il a besoin d'aide. Il faut qu'on l'assiste. Il faut que quelqu'un soit là pour l'aider, sortir du lit, aller dans la salle de bain, l'amener, préparer son petit-déj. Surtout si maman est décédée déjà, par exemple, voyez, un cas de figure. Et donc, s'il y a, ça c'est mon opinion, ça n'engage que moi, s'il y a une maison de retraite pour musulmans, ben, le premier réflexe serait d'envoyer papa là-bas. Il sera bien occupé, il sera heureux. Et nous, on aura la conscience tranquille parce qu'on va payer. C'est parce que je vais payer 500 euros par mois à la maison de retraite que j'aurai l'impression que j'ai donné les droits à mes parents. Mais je n'ai rien fait là. C'est-à-dire, le djannat ne s'achète pas avec une pension alimentaire. C'est le khidma. Quand on parle du terme khidma, ce n'est pas donner de l'argent, c'est être au service. Regardez ce jeune homme qui a vu ses actions acceptées par Allah lorsqu'il était dans la grotte, l'histoire qu'on avait citée avant. Quelle action il avait fait? Il avait dit que quand je revenais du désert, des écarts avec le lait, il avait un troupeau de chameaux, et quand de chamelles, il revenait avec le lait, la première personne à qui il donnait le lait, c'était ses parents, par respect, par adab, et ensuite, il servait le lait à son épouse et ses enfants. Et arrivé un soir, ses parents, ils se sont couchés plus tôt que prévu. Et l'enfant dit que je ne peux pas me permettre de donner le lait ou à manger à mes enfants, à mon épouse, sans l'avoir donné à mon papa, à maman en premier. Donc cet enfant est resté, c'est une histoire, c'est pas une histoire d'un temps longtemps, c'est resté authentique, hadith, hein, d'accord? L'enfant est resté auprès du lit de ses parents, jusqu'à ce que ses derniers se réveillent. Il ne les a pas réveillés non plus par respect pour leur sommeil. Il a attendu, lorsqu'ils se sont réveillés, là il leur a servi le lait qu'il avait l'habitude de le donner tous les jours, et ensuite il a donné à son épouse et ses enfants. Et Allah Azza wa Jal a tellement aimé cette action que ça faisait partie des trois actions qui a permis à ces gens-là d'être libérés de cette situation difficile. Donc c'est une action qui a été appréciée par Allah. Ce jeune homme, qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a pas donné une pension, il n'a pas donné 100 dirhams à ses parents, il dit voilà, quand vous avez besoin de manger, allez, il y a la boutique en face, ou il y a le commerçant, etc. Là, wallah. Il a fait le khidmat par son corps et par son temps. C'est ce qu'Allah Ta'ala attend de nous. Et quand vous faites ça, c'est là que les parents font doua pour vous. J'ai discuté avec un jeune tout à l'heure, il m'a appelé en Maghreb Isha de Paris, un Réunionnais qui fait des études à Paris. Il devait se marier avec quelqu'un, il voulait, et puis il m'a dit que je sais que si je me marie avec cette personne, mes parents ne seraient pas d'accord dans le fond. Mais pour me faire plaisir, il dit, Béta, il est amoureux, il y a un petit filal, il s'est marié. Pour me faire plaisir, il validerait. Enfin, il validerait, mais il accepterait le nikah. Elle dit que par respect pour mes parents, je sais pertinemment que si je me marie avec cette fille, alors que dans le fond, ma maman n'est pas vraiment contente, n'est pas vraiment satisfaite, ben je cours à ma perte. Parce que si toute ma vie, un jeune de 22 ans, d'ici toute ma vie, je vis avec une maman qui a quelque chose à me reprocher dans son cœur, je sais pertinemment que je n'aurai jamais le succès. Je conduisais avec le parleur, tu n'as pas de téléphone, peut-être 4 points, voyez, je conduisais, j'écoutais, tu subhanallah, ça c'est le discours d'un jeune de 22 ans, mais ça fait plaisir. Il y en a qui disent que cette génération est foutue, elle n'est pas foutue. Il y en a vraiment, ils ont un peu dépassé les limites, mais il y en a, alhamdulillah, par le ta'alim, par l'éducation, par la madrasa et tout, alhamdulillah, il y a des jeunes qui ont réalisé. Un jeune de 22 ans qui fait de hautes études, de master, je ne sais quoi, c'est pas un marmel au chômage, de master, quelqu'un d'intelligent, et il a conscience que, même si je suis pertinemment amoureux de cette fille, la fille de Fatima par exemple, mais si ma maman n'est pas satisfaite de moi, de ce mariage, il vaut mieux que je choisisse quelqu'un qui fait l'unanimité chez mes parents. Ça c'est hajib ça. Cette parole que ce jeune m'a dit, c'est quelque chose qui m'a profondément marqué. Donc c'est ça, c'est de ça que nos parents ont besoin. Dernièrement, il y avait le village de Eid, qui s'est fait à Saint-Pierre, et on avait fait un discours, bismillah, concernant les relations humaines.
On a présenté l'islam en termes de akhlaq, de relations, le musulman dans la société, mais également le musulman avec ses parents, avec ses voisins, avec son épouse, ses enfants. Et il y avait des personnes âgées qui ne sont pas musulmans, bien sûr, c'est un public beaucoup plus large qu'une masjid. Il y avait un vieux monsieur, hein, vu l'apparence, ça devait être quelqu'un d'origine, soit il était hindou, ou malbar, ou tamoul, et la personne écoutait attentivement, et à la fin, il m'a pris, il a pris mes deux mains, ça, bref. C'est quoi le truc, c'est quoi? C'est qu'on n'entend pas ce genre de discours dans la société. On est dans une société où la notion de morale n'existe plus. Hein? Et comme on l'avait dit dans d'autres circonstances, regardez un peu les publicités. Hein, dernièrement, il y avait la journée contre les chiens battus, hein, dimanche là. Contre les chiens battus, les chiens abandonnés. Est-ce qu'il y a une journée pour les parents abandonnés? Ça, il n'y a pas ça. Les chiens, oui, on va faire cadavre. Il y aura la SPA, il y aura Brigitte, comme on appelle, je ne sais pas quoi là, Taïb, qui portera plainte s'il y a maltraitant. Dernièrement, subhanallah, écoutez sur radio, elle avait porté plainte contre des gens qui avaient maltraité, des chats dans une maison. Subhanallah. Taïb, bon, on sait que ce n'est pas bien, mais, c'est-à-dire, on s'attarde, c'est des mahlouqas, des créatures d'âge, je ne dis pas non, mais on oublie les priorités. Les priorités, c'est les parents, c'est les enfants qui abandonnent leurs parents. C'est les enfants qui, allez, même s'ils ne mettent pas dans une maison de retraite, qui mettent dans des studios leurs parents et qui viennent les voir une fois de temps. Si vous voulez des noms, je vous donne des noms. Mais ce n'est pas l'endroit pour donner des noms. Je connais des gens de bonnes familles, de familles aisées, qui laissent leur maman âgée, alitée, seule, avec une infirmière qui vient, une assistante qui vient, qui donne à manger. Subhanallah. Où sont la famille? Ça, c'est le djannat, ça. Bon, c'est quelqu'un qui n'a plus d'enfants, ou je ne sais pas, je ne juge personne, mais ça, c'est djannat, ça, pour les personnes. Si les enfants, ils savaient l'importance de leurs parents, la porte du paradis, c'est cette vieille dame qui est alitée. C'est pas le tahajjud, c'est pas le qiyamul layl, c'est pas l'étude Quran, c'est pas dhikrullah, tout ça, oui. Mais la priorité, quand Allah Ta'ala dit, وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ. Allah a décrété qu'on n'adore pas d'autre Dieu que lui. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. Et d'agir correctement avec les parents. C'est-à-dire, on avait expliqué la fois que immédiatement, après le tawhid, après l'unicité d'Allah, qui est la base de notre din, vient immédiatement la bienfaisance envers les parents. Et c'est pour ça qu'on s'attarde sur ce sujet. Ce n'est pas pour rien si l'obéissance envers les parents vient immédiatement après le tawhid. C'est pour cela on s'attarde dessus, parce que le jour de Qiyamah, les comptes à rendre sur l'obéissance envers les parents, ben c'est des comptes vraiment spéciaux. Puisqu'il y a une telle importance dans ce monde, ben qu'on comprenne bien que dans l'au-delà, le respect que j'ai pour mes parents, ben je serai largement rétribué par Allah Azza wa Jal. Même si dans ma vie de ce dunya, je n'étais pas un grand abid. Même si je n'avais pas la plus longue barbe du monde, je ne mettais pas des plus beaux kafnis, j'étais musulman de base, mes 5 salats, mon ramadan, mon hajj, mon zakat, etc., etc., les a'mal de base, mais si avec ça, j'avais le sourire de mes parents, du matin jusqu'au soir, du lundi jusqu'au dimanche, ben je suis une personne qui, Inch'Allah, accédera au paradis. Et dans le cas contraire, je peux être le plus grand abid, le plus grand zakir, le plus grand qari, ali, mufti, cheikh ou hadith, ou tout ce que vous voulez, mais si avec ça, je n'ai pas eu la satisfaction de mes deux, voire de un de mes deux parents, je suis un homme cuit. Et plus que cuit, je suis grillé par le Jahannam. Parce que notre prophète, alayhi salatu wasalam, a bien dit, là, il y a trop le Jannat al-Haq, celui qui a désobéi à ses parents, là, il y a trop. C'est pas qu'il n'entre pas, basse. Il n'accède pas au paradis. Et les ulama disent que cette personne risque de mourir avec sous al-Khatima, de mourir avec la pire des morts, dont on ne se prononce plus sur l'issue quand la personne sera ressuscitée le jour de Qiyamah. Aujourd'hui, on a besoin de faire les journées de la famille. Vous voyez, les journées de la famille qui va se faire à Sainte-Marie. La société a besoin de faire des événements phares pour mettre en valeur ce genre de comportement, ce genre de akhlaq qui est perdu dans notre société, qui est complètement perdu dans la société moderne, mais qui reste une des valeurs de base dans notre religion, une des valeurs de base, dans l'islam. Il y avait un hadith qui est magnifique, un hadith qu'on avait déjà cité, qu'on le rappelle lorsque notre prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, ça c'était hadith de Ibn Abbas radiallahu anhuma, dit « Ma min muslimin lahu walidani muslimani yusbihu ilayhima » Hadith est long, il n'y a pas un musulman qui a ses deux parents, voire un des deux parents qui sont vivants, et que dès le matin, dès le départ, ces parents-là sont satisfaits de lui, sans que Allah Ta'ala également est satisfait de cette personne. Mais wa in aghdaba ahadahuma lam yarda Allahu anhu hatta yarda anhu. Et si un des deux parents, voire les deux, sont mécontents de cet enfant, alors jamais Allah ne sera satisfait de cet enfant tant qu'il ne retrouvera pas le contentement de ses parents. C'est-à-dire que fais ce que vous voulez, fais le maximum de ibadat, allez faire hajj tous les ans, allez faire ce que vous voulez, mais s'il y a papa ou maman, voire les deux, qui ne sont pas satisfaits de la personne, Allah Azza wa Jalla ne peut pas être satisfait de cette personne. Et on a demandé, qila wa in zalama, même si c'est eux qui ont tort, même si c'est eux qui vous ont fait du tort, on n'a pas dit qui ont tort, non, qui vous ont fait du tort, qala wa in zalama, même si c'est eux qui vous ont fait du tort. Donc en aucun cas, ça c'est dans Al-Adab al-Mufrad de Bukhari, dans aucun cas je peux dire que oui, mais c'est moi qui avais raison. Non, on n'aura jamais raison. Même si dans le fond, on voit que ben, ils ont peut-être mal agi, mais même s'ils ont mal agi, on n'est pas dans une situation où on est sur un même pied d'égalité. Ils ont toujours un avantage parce qu'ils sont les parents et c'est vers eux que doit être portée toute notre attention. On va voir quelques exemples. On ne va pas faire long aujourd'hui, Inch'Allah. On finit à 30 minutes, encore 10 minutes, Inch'Allah. 9 points. 9 points rapides hein, pour illustrer les droits des parents. Alors, dans le hadith qui commente le verset وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفَ, lorsqu'Allah Ta'ala ordonne d'être bien avec les parents de ce dunya, notre prophète والسلام, dit أَلْمُصَاحَبَةُ بِالْمَعْرُوفِ. C'est quoi être bien avec les parents? Premièrement, أَنْ يُطْعِمَهُمَا إِذَا جَاعَا وَيَكْسُوهُمَا إِذَا عَرِيَا. De donner à manger à nos parents s'ils ont faim et de leur donner des vêtements. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pourvoir à leurs dépenses. C'est-à-dire que l'obéissance envers les parents, ce n'est pas juste le sourire, ce n'est pas juste obtenir leurs droits, c'est également aider financièrement les parents. En général, à notre époque, c'est le contraire. C'est les parents qui aident leurs enfants. Oui, alhamdoulilah, parce que peut-être les parents ils ont les moyens. Mais supposez qu'on est dans un cas de figure où les parents n'ont pas les moyens. C'est du devoir des enfants de donner à leurs parents. Et en aucun cas, un enfant peut dire que oui, mais ça c'est mon argent. J'ai travaillé, pourquoi je vais lui donner ? Quand vous étiez petit, vous aviez 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, jusqu'à 10 ans, 12 ans. Est-ce que les parents vous disaient que bon, bêta, vous devez manger un soir, aller travailler et puis on n'aura plus à manger? Non. Les parents savaient que c'est de la fitra. Il n'y a pas besoin de dîne, ça. C'est dans l'inéité. C'est dans les valeurs humaines que les parents donnent à manger à leurs enfants. Tout comme, excusez-moi, les animaux donnent à manger à leurs enfants. J'ai déjà vu des je sais pas, quelle que soit la race, l'espèce animale, même le plus sauvage, j'ai déjà vu des animaux qui disaient envoient leurs enfants les chercher à manger. Là, wallah, ça fait partie de la nature humaine. Et le contraire également, et là, se distingue le musulman dans leurs vieux jours, hein, c'est les enfants qui doivent maintenant aider leurs parents financièrement s'ils n'ont pas les moyens. Il y en a deux là. وَمِنْ حَقُوقِهِمَا خِدْمَتُهُمَا إِذَا احْتَاجَا أَوْ أَحَدُهُمَا إِلَى خِدْمَةٍ. Et troisième point, c'est d'être à leur service s'ils ont besoin de quoi que ce soit. Si les parents ont besoin de faire leurs courses, si les parents ils aiment aller en grande surface mais ne peuvent pas conduire, c'est de mon devoir de prendre ma journée de samedi matin ou samedi après-midi, de consacrer ça à mes parents. S'ils ont besoin de quelqu'un pour nettoyer la maison, nettoyer la voiture, quel que soit le khidmat, on ne doit pas attendre qu'ils nous sollicitent. On doit bien comprendre que je construis mon jannat de mes propres mains en assistant mes parents. En assistant mes parents, je suis en train de construire ma réussite de ce monde parce que j'aurai le droit, et c'est ce qui est le plus important, et ma réussite dans le akhirat par le biais de l'obéissance envers eux. Alors ça c'est facile. Quand les parents vous invitent chez eux d'y aller, alors ça tout le monde le met en pratique. Quand maman dit viens manger à casa samedi soir, là tout le monde, mais ça ne se limite pas à ça. C'est bien, et ça encore. Et ça encore, ensuite, madame n'est pas, il ne faut pas dire de gros mots, ce madame n'est pas un peu spéciale, il empêche d'aller voir ses parents, parce que ça aussi il y a ça. Hein? Ça aussi il y a Ben Belfichipek, il empêche le mari d'aller voir ses parents, mais ça on ne peut pas accepter ces cas de figure. Un cas de figure, maintenant, il faut s'en remettre au moufti, un cas de figure où ma femme, elle a un tel caractère qu'elle ne supporte pas ma mère ni mon père, et qu'elle m'interdit, cas de figure, hein, qu'elle m'interdit d'aller voir mes parents, il ne faut pas rester avec cette femme, il faut donner ta main. On essaie de trouver des solutions. Mais je ne vais pas brader mon akhirat pour les beaux yeux d'une femme. C'est-à-dire que je n'ai pas de devoir envers elle depuis ma naissance. J'ai des devoirs envers elle depuis qu'on a fait le sermon du nikah. Mais j'ai des devoirs envers mes parents depuis le jour où je suis né. Et pour ma femme, si un jour elle meurt, c'est fini. Il n'y a plus de devoirs envers elle. Et si un jour, qu'Allah nous protège, je ne donne pas l'arc, c'est fini les devoirs envers elle. Mais on ne donne pas l'arc à ses parents. Jusqu'à leur mort, j'ai des devoirs envers eux. Donc, accepter l'invitation des parents. Et c'est malheureux de voir que dans beaucoup de familles, il y a des gens qui... Il y a beaucoup de familles, on se retrouve que le jour de Eid, que le jour de Bakrid, et que quand il y a Mayet, et quand il y a un mariage. C'est-à-dire que les familles ne se retrouvent plus. Rares sont les familles où on a encore des repas familiales, des repas familiaux le samedi soir, où toute la famille, tonton, cala, les tantes, les nièces, neveux, tout le monde se retrouve. Ça, c'est important, ça. Et même s'il y a des petites tensions entre les membres d'une famille, mais il faut perpétuer les repas. Il ne faut pas être regard. Il y a beaucoup de gens qui disent que oui, mais un tel, il vient la main vide, c'est comme ça. Ce n'est pas grave, ça. Ça, c'est des détails. Quand on invite quelqu'un, quand on invite toute une famille, il y a 7, 8, 9 frères, ou je ne sais combien de tontons, tantes, neveux, etc., et qu'on voit que Nana les tire au flanc, il vient toujours avec un pizza qu'il a acheté en face, ou qu'il vient avec un truc déjà prêt, etc., qui ne se fatigue pas. Mais mon objectif, ce n'est pas qu'il y ait l'équité, qu'il y ait la justice, que tout le monde s'est fatigué comme moi. Non. Mon objectif, c'est quoi? C'est silatul rahim. Entretenir les liens familiaux pour Allah. Parce que c'est le devoir du musulman. Si je le fais, Allah me récompense. Et si je ne fais rien pour entretenir ça, je suis pécheur. Maintenant que X, Y, Z, il vient pas, il fait ci, il fait pas ça, ça c'est des détails. Il ne faut pas que Shaitan nous fait perdre les vraies valeurs. Ce n'est pas que tout le monde soit équitable dans leur contribution. Non, c'est que tout le monde vienne et que tout le monde s'entende et qu'il y ait muhabbat et qu'on se sépare avec muhabbat. Ça c'est le plus important. On continue. وَمْتِثَالُ أَمْرِهِمَا مَا لَمْ يَكُنْ مَعْصِيَا. Et d'obéir à leur ordre, à leur souhait, à leur désir, tant que ce n'est pas un péché. Et ça, ça nous ramène vers le verset du Coran, lorsqu'Allah a dit وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَنْ تُشْرِكَ بِمَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا. Dans le cas où une personne s'est convertie à l'islam et que ses parents sont toujours kafirs, ou qu'ils sont athées, ou peu importe, et que les parents ordonnent à l'enfant de faire quelque chose qui est haram, là on n'obéit pas. Mais mis à part ce cas de figure, Allah Azza wa Jalla nous ordonne وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا, de rester bien, de garder de bonnes relations avec eux, même les parents qui sont mouchriques. Même si notre papa et notre maman ne se sont pas convertis, ils se prosternent devant une statue, même ça, nous devons agir avec eux comme nous agissons avec des parents qui sont musulmans. Sauf s'ils nous demandent de faire ce qui est haram, de boire, manger haram, là on ne fait pas, mais mis à part ça, c'est exactement les mêmes obligations, les mêmes devoirs. De parler avec eux avec douceur et gentillesse. Et on connaît tous ce verset. La limite à ne pas franchir à la zone rouge, c'est quoi? C'est le oufin, l'onomatopée, comme on dit en français. C'est le son, le soupir de désespoir, le soupir d'agacement. Alors n'en parlons plus si on argumente. Comme il dit, en train de nous répondre notre parent. Si on argumente, si on essaie d'avoir raison, si on essaie de montrer qu'on a raison, là on a largement dépassé les limites. Le simple fait de manifester le mécontentement en présence des parents, c'est haram. Maintenant, si les parents sont difficiles et que devant eux j'agis correctement, mais arrivé chez moi avec mon époux, je dis que oui, papa, il dit moi ça, mais il est difficile avec lui. Ça, Inch'Allah, ce n'est pas grave. Mais le plus important, c'est de ne pas montrer des signes d'agacement en leur présence. Et après ça, on reste des humains. C'est vrai que si ils sont pesants, à un moment donné, c'est difficile, ben nous restons des humains avec nos frustrations, nos qualités, nos défauts, mais ne pas montrer le moindre signe d'agacement en présence des parents. وَأَلَّا يَدْعُوهُمَا بِسْمِهِمَا. Ah, ne pas interpeller les parents par leur prénom. Ça, il n'y a pas ça dans notre communauté. Ça, si papa appelle Mohamed, on ne l'appelle pas Mohamed. Mais par contre, qu'est-ce qu'il y a malheureusement? Le vieux et la vieille. Ça, il y a encore beaucoup. Subhanallah, on faisait un programme de Ramadan avec un Jamaat qui était là. Un Jamaat qui était là, fait un programme pour Adam, et il y avait un jeune qui était là, il était très attentif, hein, c'était le plus attentif. Il avait son GSM à côté de moi, il enregistrait. Bon, on laisse enregistrer, hein, tant qu'on n'utilise pas ça pour des mauvaises choses, on laisse. T'as vu? Et à un moment donné, son portable a sonné. Et j'ai regardé, c'est pas bien, j'ai regardé le numéro, c'était écrit la vieille. Je dis, subhanallah, c'est beaucoup de Jamaat. Daramzan, j'aurais voulu lui dire, mais il y avait son ami, plein de gens. Stéphane, il sonne, c'est la vieille. Alors, si dans son portable, sa maman est enregistrée sous le nom de la vieille, je pense que son papa, c'est le vieux. Et quand il les appelle, je ne sais pas comment il les appelle. Hein? Allah Musta'an, ça, il ne faut pas. Ça. Donc, appeler les parents par papa, maman ou par quelle que soit la langue, hein, peu importe, mais pas par ce genre de nom de Ta'ala ou de Billah, et moins encore par le prénom. Wa an yamshi khalfahuma. Ah, là, ça va faire grincer les dents, là. Marcher toujours derrière les parents. Tant de respect qu'on peut avoir pour les alim, pour les muftis, pour les gens de religion, mais est-ce que, avant de faire tout ça, ok, est-ce qu'on le fait avec nos parents? Hada awwal shay. Jour qu'Allah la famille ne vous demandera pas est-ce que tu as respecté ton stand. Ça, c'est une petite tradition indienne aussi, ça, hein, de toujours demander au stade le mashwara. C'est une bonne chose, mais il faut bien savoir que dans la religion, il n'y a pas de mashwara avec le molissab. Il y a beaucoup d'élèves, hein, on se rend compte qu'ils ont un respect excessif pour le stade. C'est bien. Si, moi, j'ai des élèves qui ont des hafez avec moi, je suis content. Ils viennent me demander des choses, où ça fait taravi, quelle position, mais fait ça. Alhamdulillah, mais c'est pas moi, il faut demander. Ça fait pas avec moi, il faut faire mashwara quand même besoin de quelque chose. Parce qu'il n'a pas rien pour gagner avec moi. J'ai ma récompense si je vais hafez à quelqu'un ou enseigner, taïb, mais le mashwara, ça fait avec papa et maman. Maintenant, si le mashwara, papa et maman, ensuite, moulissab, tant mieux. Mais ne pas zapper un au profit de l'autre. Parce que la priorité, c'est le père et la mère. Et puis, tout ce qui est en dehors de ça, ça, il n'y a aucun devoir, il n'y a aucune obligation. Wa an yad'u Allah lahuma bil maghfira, on terminera avec ça, et de demander à Allah en permanence pour qu'Allah Ta'ala leur fasse miséricorde. On voit quoi à travers les 9 points qu'on a cités? Le respect, c'est par la langue, la manière de parler avec eux, la manière de les appeler. Le respect, c'est par bil jawarih, par les actions. Je donne de l'argent, j'apporte mon aide, je donne mon temps et je donne de mon corps aussi, je porte assistance, et également avec le cœur. J'ai l'amour pour eux dans mon cœur et je demande doua à Allah Azza wa Jalla en permanence. Donc, il y avait un tafsir, j'ai pas avec moi, ça avec, subhanallah, j'ai oublié, Ibn al-Izz al-Hanafi, hein, dans ses kitabs, dans le commentaire de ce genre de verset, il disait que un enfant qui demande 5 fois par jour, Rabbi irhamhuma kama rabbayani saghira, qui demande ce doigt 5 fois par jour à Allah pour ses parents, ben Inch'Allah, il est proche, hein, de s'acquitter des devoirs envers le parent. C'est-à-dire que au moins, le musulman doit demander 5 fois par jour doigt pour ses parents. Tout comme on fait 5 prières, on doit au maximum de fois demander doigt, maghfirat et raham pour nos parents, qu'ils soient vivants ou qu'ils soient décédés. Et dans le fait de contribuer, d'aider financièrement leurs parents, il y a une merveilleuse citation de, si je ne me trompe pas, de Hassan al-Basri, rahimahullah, ou de quelqu'un d'autre. Oui, on a demandé à Hassan al-Basri, comment obéir à ses parents, et dit que « an tabzula lahuma ma malakta », de donner, d'aider financièrement avec tes moyens, d'aider tes parents, de les assister par tes moyens. Et ensuite de les obéir tant qu'ils ne te demandent pas de faire des prières. Donc on voit bien que aider financièrement, si on voit, c'est-à-dire que le système que l'islam a mis en place est un système qui est parfait. Avant qu'il y ait les retraites, l'argent de retraite ou l'argent de femme seule ou quand c'est le mari décide, etc. Avant tout cela, notre dîn, il y a 1500 années, a mis en place un système qui apporte un équilibre à la société. Cet équilibre, c'est quoi? C'est que quand les personnes sont en fin de vie, ils ne peuvent plus travailler, ils ne sont pas abandonnés. Ils reviennent auprès de leurs enfants et c'est à leurs enfants de prendre en charge la totalité de leurs dépenses, leur hébergement, leur khidmat, leurs soins et d'apporter assistance jusqu'à ce qu'ils quittent ce dunya. Et si je le fais, Inch'Allah, j'ai le contentement de mes parents et par cela, j'ai le contentement d'Allah. De la sorte, la société fonctionne de la manière la plus cohérente, de la manière la plus parfaite. Donc, on va s'arrêter à là, Inch'Allah, on en est à 33 minutes. On voulait terminer ce chapitre sur l'obéissance pour passer par la suite au devoir d'un enfant face à ses parents décédés. Ça, c'est un autre cas de figure. Quand les parents sont décédés, si je n'ai pas pu faire ce que je devais faire, ou alors j'ai fait au maximum, maintenant ils sont décédés, qu'est-ce que je peux encore faire? Donc ça, on aurait souhaité aborder la prochaine fois. Mais il reste encore quelques points, on verra ça par la suite, et principalement concernant la maman. Quelques points concernant la mère. On terminera avec une petite anecdote pour qu'on comprenne bien qu'il n'y a pas de, limite temporelle dans l'obéissance envers les parents. Il y a cette histoire magnifique de, subhanallah, si on retrouve le récit, il y avait une personne qui faisait le hajj ou alors qui faisait le umrah, et cette personne portait ses parents sur son dos. Je ne sais pas si c'est en présence de Umar ibn al-Khattab, hein, cette personne portait sa maman et il faisait le tawaf avec sa maman sur son dos. Et après, il a demandé, oh, ya Umar, est-ce que par cette action, hein, est-ce que je me suis acquitté maintenant? Est-ce que je me suis acquitté maintenant de mes devoirs envers mes parents? Et là, Omar a dit que tu ne t'es même pas acquitté du premier souffle, de la première douleur qu'a subie ta maman au moment où elle t'a mis au monde. Bien comprendre qu'il n'y a pas de limite temporelle dans l'obéissance envers les parents, c'est jusqu'à leur décès. Et plus on va faire, plus on aura de chances d'avoir le paradis. Donc la prochaine fois, on va voir quelques petits exemples d'Abu Huraira. Comment Abu Huraira, on avait déjà vu ça une fois, mais comment Abu Huraira respectait sa maman en entrant, en sortant de chez lui, comment il tenait à faire le salam, saluer à chaque fois sa maman. On voit également que le simple fait de rendre ses parents tristes par une parole ou un comportement, hein, ça c'est déjà quelque chose de mauvais, et que si cela nous arrive, on doit immédiatement se rendre auprès d'eux afin de remettre la joie de leur cœur, hein, et d'enlever la tristesse, hein, qui a été causée par notre comportement ou par nos paroles. Donc à la tête de Tawfiq, de reprendre donc avec un peu plus de stiqama, de fermeté ces programmes, et qu'Allah nous donne la possibilité de comprendre ces quelques paroles, de méditer sur ce sens, et si nos parents sont encore vivants, qu'on prenne de bonnes résolutions, que dès ce soir, dès maintenant, on prend cette bonne habitude de rendre visite régulièrement à nos parents, d'être à leur écoute, à leur service et de leur porter assistance. Maintenant, si nos parents sont décédés, on verra par la suite qu'est-ce que je peux faire ou encore faire pour mes parents. Et une petite anecdote également avant de terminer. Souvent, on parle de Cheikh Halifi qui était là il y a un an et demi, ce Cheikh de Riyad qui était donc attaché consulaire, qui était venu nous rendre visite. Parce que, alhamdoulilah, nous a donné beaucoup d'enseignements concernant le respect des parents. On avait déjà expliqué quelques enseignements. Mais il y avait une petite anecdote qu'on n'a pas eu l'occasion de dire. J'avais demandé à Cheikh, avec les qualifications qu'il a, avec comment il est, mashallah, il a un poste important dans le gouvernement. Je dis, mais Cheikh, mais qu'est-ce qui te coûte de demander ta mutation pour aller à Madina? Il m'a dit que de Riyad aller à Madina, c'est très loin avec le travail, c'est pas possible. Il dit que son rêve, c'est d'aller s'installer à Madina. Parce qu'il y a le ministère, il y a Riyad, il y a Madina, dans toutes les villes. Il dit qu'on lui a déjà proposé, il peut s'installer là-bas. Il dit, mais Cheikh, qu'est-ce que tu attends? Il a un souhaité saoudien, il n'y a pas besoin d'autre chose. Il dit que quelqu'un à Riyad, il a la possibilité d'aller à Madina. Toi, pourquoi tu ne vas pas habiter? Il a dit que sa maman était décédée il y a 2 ans. Il a dit qu'il me reste mon père. Et mon papa ne veut pas que je m'éloigne de lui. Donc, tant que mon père sera vivant, je vais rester à ses côtés. Alors, regardez dans l'autre sens. Si quelqu'un, il voit le din d'une autre façon, il va se dire que, attends, d'un côté, il y a papa qui fait ses caprices. Si quelqu'un ne comprend pas le dit, il va dire que papa se fait ses caprices, devient gâteux. Et de l'autre côté, je peux habiter à Madina Munawwara, près de la tombe de Prophète, de faire mes 5 salats avec les récompenses qu'il y a, hein, d'aller Umrah régulièrement, etc. Subhanallah. Mais on peut penser qu'on a plus de récompenses à Bala Allah. Cher, il a tout compris, lui. Il fait bien comprendre que tant que mon père sera vivant, je ne peux pas quitter la ville de Riyad, je ne peux pas aller habiter que ce soit à Makkah ou à Madina. Je me dois de rester proche de mon père et d'être à son service jusqu'à son décès. Hein, qu'on médite là-dessus. Subhanallah, rabbika, wa bil 'izzati 'amma yasifun, wa salamun 'alal mursalin, alhamdulillah. Jazakumullah khair.